Un tango, une danse, un baiser.
Du bêta, bêta, bêta. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie-Richeux.
Et c'est que le monde dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
À 10h26, Marina et Julien se regardent à la terrasse d'un café. Coude sur la table, sourire béat, une case, deux cases, trois cases, quatre cases, du temps passe, cinq cases comme ça, et puis en bas de la page à gauche, une bulle nous révèle la pensée de Marina qui se demande à partir de combien de minutes passe-t-on de silence complice à « on n'a vraiment rien à foutre ensemble ». Sur la couverture de votre dernier livre, Fab Caro, les figurines des mariés se tiennent non pas sur une pièce montée, mais sur un plat de pâte qu'on pourrait finir en un gros slurp, mais qu'on peut aussi finir façon La Belle et le Clochard dans un doux baiser amoureux. Moi qu'hier, plus que demain, c'est publié aux éditions Glénat. Bonsoir Fab Caro.
Bonsoir.
Et bienvenue. Alors, juste avant de commencer l'émission, je me suis demandé si vous n'en avez pas marre de parler de votre travail, parce que ces temps-ci, vous avez eu l'occasion de le faire, voilà, il y a des moments comme ça, médiatiques. Et vous m'avez dit non, mais je ne suis pas sûre d'être très bien fait pour le faire.
Ouais, en fait, c'est rigolo parce que... j'ai écrit parce que j'avais du mal à parler. Souvent, quand j'étais tout petit, j'étais dans une espèce de bulle. Je dessinais, j'écrivais, et j'ai fait des livres pour éviter d'avoir à parler. Et maintenant, le paradoxe, c'est que je fais des livres, on me demande d'en parler. Donc double peine. Mais moi, j'aime bien
mais
parler.
Mais ça bouge le rapport à la parole avec le temps. Parce que c'est souvent que... Pardon, je vous coupe du coup, c'est vraiment,
on commence mal,
mais c'est souvent qu'on peut avoir ce genre de discussion, notamment avec des auteurs de bande dessinée. C'est pas la première fois que j'entends ça. L'idée que peut-être ils ne sont pas les meilleurs pour parler de leur travail ou que c'est pas évident. Mais est-ce que ça se modifie avec le temps?
Oh oui, avec l'âge, on devient... Moi, je suis très timide, mais avec l'âge, ça va mieux. Et puis le fait de publier, de faire des livres... Alors il y a des émissions comme ça, il y a les dédicaces aussi, on rencontre les gens, on rencontre le public, et du coup ça désinhibe un petit peu, et puis surtout ça fait relativiser pas mal de choses. Moi j'ai mon tout premier album, ça s'appelle Le Steak Haché de Damoclès, c'était sur la timidité, sur l'émotivité, sur les problèmes de communication, et je me suis dit mais ça va parler à personne cette histoire. Et en fait en dédicace, ou les premiers retours que j'ai eus, c'est un tas de gens qui me disaient mais c'est fou comment on se reconnaît dans vos trucs. Et là, on se dit, mais en fait, ouais, tout le monde est névrosé, quoi. Et ça fait relativiser un petit peu le truc, quoi. Et du coup, on se dit, alors je sais pas si on évolue ou si on assume. Mais en tout cas, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Autant possible.
Quand vous dites on assume, vous assumez quoi? Vous assumez que ce que vous écrivez rencontre des échos, ou vous assumez simplement que le terrain de la parole soit pas forcément celui que vous préférez?
On assume plus ce qu'on est, en fait. On se sent un petit peu. Moi, je me sens toujours un petit peu décalé. J'ai toujours l'impression que je suis pas à ma place, mais plus on rencontre de gens, plus on s'aperçoit que personne ne se sent à sa place. Du coup, ça fait du bien de se dire que personne n'est à sa place. Et on assume plus, on n'essaie pas de ressembler à un modèle, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de modèle. Quoi. Et ça fait du bien, c'est bien, de se rencontrer entre névrosés. C'est une espèce de grande thérapie, en fait, de faire des livres. On se rencontre entre gens pas très bien, c'est cool.
Vous avez l'impression que les gens vous parlent facilement dans les rencontres en librairie. Ça ressemble à quoi, ce dialogue?
Ouais, mais c'est étonnant. C'est des espèces de micro-psy. Alors, la dédicace dure. Alors, moi, je dessine très vite, mais des fois, je fais exprès de faire durer le trait.
De ralentir un peu.
Pour pouvoir discuter, parce que les gens se livrent très, très vite. Mais c'est très étonnant. Parce que les gens ont lu votre livre, donc eux ont l'impression de vous connaître. Alors moi j'arrive, c'est des inconnus que j'ai en face de moi, mais eux ont l'impression de vous connaître. Et du coup ils se livrent, mais c'est étonnant, en 5 secondes, ils rentrent très vite dans les détails, et les gens ont besoin de parler, on s'aperçoit que les gens ont vraiment besoin de parler. Et c'est hyper touchant. Et surtout avec le dernier, alors les deux derniers ça parle du couple, et alors c'est trouble. Les gens même me racontent leurs histoires. Là, j'étais en festival ce week-end et des gens qui me racontaient leurs histoires de couple. Des fois, c'est assez, c'est troublant. C'est limite impudique. Des fois, je me dis, mais faut pas me dire ça à moi. C'est hyper touchant, je trouve.
Ça tient à quoi, d'après vous? Ça tient à ce que vous avez réussi à trouver quelque chose qui tient des angoisses de l'époque, qui tient peut-être d'une répétition des angoisses individuelles. Que vous avez quand même trouvé quelque chose qui parle aux gens.
Ouais, et alors j'ai pas fait exprès, parce que justement, comme je vous disais, moi j'avais l'impression de parler de l'intime, j'avais l'impression de parler de moi, et toujours avec ce doute de me dire, mais qui ça va intéresser? Ça va intéresser personne.
Encore pour les derniers, où vous croquez tout, des histoires de couple, ouais, des situations de couple.
Alors le couple, je pressentais que ça pouvait être plus universel, mais quand je fais des choses plus intimes, je me dis, ça va parler à qui? Mais en fait, on s'aperçoit que plus on va à l'intime, plus on va à l'universel, en fait. Et c'est en parlant de ces trucs les plus spécifiques, enfin qu'on croit les plus spécifiques, qu'on touche bizarrement à l'universel ou à pas mal de monde.
Est-ce qu'ils ont raison, les lectrices et les lecteurs, de considérer qu'ils vous connaissent quand ils viennent vous voir après avoir lu une ou deux bandes dessinées en librairie?
Et alors, je ne sais pas trop répondre à ça. Je ne sais pas si... Peut-être que oui. Je me disais que... Je ne sais pas si on peut connaître quelqu'un à travers son œuvre. Mais en fait, peut-être que si, peut-être qu'ils me connaissent mieux que ce que je crois. Peut-être que je dis plus de choses dans mes livres que... Ouais, peut-être que les lecteurs me connaissent mieux que mes parents, si ça se trouve. Parce que je livre des choses, alors consciemment ou pas, mais il y a des choses qui transparaissent. Et ouais, peut-être que les lecteurs me connaissent vachement bien, en fait. Et puis, ça crée une espèce d'empathie. Ils viennent me parler comme si on était déjà très proches. Et puis, ils mettent rarement à côté quand on discute. Enfin, ils se trompent pas de personne. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'ils me connaissent. Alors, il y aurait quelque chose qui doit transparaître dans ce que je fais. Je sais pas sur ce que je suis.
Et c'est une intimité qui vous plaît, cette relation avec les lecteurs?
Ouais, moi j'adore ça. Ouais. Parce qu'après, le côté faire un petit dessin, avec la file de gens qui attendent pour la dédicace, et puis dessiner comme ça à la chaîne, l'usine, c'est pas plus excitant que ça. Par contre, le rapport, la discussion, moi j'adore ça. C'est pour ça que je vous dis, des fois je fais traîner. J'ai fini en 5 secondes, mais je fais semblant d'ajouter des petits trucs, des détails, pour continuer à parler. Je trouve que c'est un rapport... Ouais, on est dans une bulle pendant, voilà, ça dure 10 minutes, mais on est dans une espèce de bulle intime comme ça, et je trouvais ça super beau.
Y compris quand ça se répète, parce qu'évidemment, derrière la personne, il y en a une autre qui veut aussi sa dédicace, il peut y en avoir quelques-unes comme ça, ça vous cause pas trop de soucis?
Bah non, parce que tout le monde est différent, enfin c'est idiot de dire ça, mais chacun arrive avec son petit sac de névrose, c'est jamais tout à fait les mêmes. Je dis névrose, c'est pas tout le temps la névrose, ça peut être des
choses... Des histoires, quoi.
Ouais, des histoires, et chaque histoire est différente. Moi j'aime bien cette espèce de succession de scénettes comme ça, c'est rigolo.
Comme dans vos bandes dessinées presque.
Ben oui, c'est ça.
Quand il y a quelques années, vous commencez à faire des livres, est-ce que vous saviez que ça allait ressembler à ça, s'adresser à des gens? Ou comment le fantasmiez-vous?
Mais je crois que je pensais pas en termes de lecteur ni de public. Moi, quand j'étais petit, je passais mon temps à écrire et à dessiner, mais juste par amour de l'objet livre. Moi, je voulais faire un livre. Quand j'étais petit, je voulais faire des livres. Mais sans penser à ce qui se passait derrière, sans penser aux lecteurs, sans penser aux... à la chaîne du livre, au côté commercial. Je voulais vraiment avoir un objet livre.
Pour vous, presque, avant de le partager.
Oui. Et d'ailleurs, j'étais persuadé que... Je ne savais pas que les BD, c'était des pages séparées. Je croyais que c'était déjà des livres. Alors, j'achetais des petits carnets... Enfin, je demandais mes parents dans les librairies d'acheter des carnets blancs. Et ça me faisait des livres. Je croyais que les livres, c'était fait comme ça, qu'on écrivait directement sur les pages.
Et qu'on le faisait plein de fois pour en avoir plein avant.
Voilà, peut-être je ne me posais pas la question, mais je voulais mon petit livre. Et je ne me posais pas la question de... Enfin, je voulais écrire, je voulais faire des livres. Mais pour moi, il n'y avait pas de lecteur. Il n'y avait pas la place du lecteur. Je ne pensais pas du tout à ça. Ça, c'est arrivé après, forcément. Non, c'était vraiment l'objet livre. Et d'ailleurs, mon tout premier livre, je ne pensais même pas au lecteur. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est le tout premier, c'est un bouquin autobio. Et j'ai dit des choses que si j'avais pensé au lecteur, peut-être j'aurais pas dit des choses comme ça. C'est pour ça que je me dis souvent que le tout premier que j'ai fait, le tout premier autobio, c'est pas le meilleur, il est pas terrible d'ailleurs. Mais c'est peut-être le plus honnête, parce que j'étais complètement affranchi du lecteur. Alors qu'une fois qu'on est lu, on sait qu'on va être lu. Et c'est toujours un petit peu faussé, du coup. On sait qu'on va être lu, donc... Alors certes, on est honnête, on reste honnête, mais il y a toujours ce prisme du « je vais être lu », donc il y a des choses que j'écris pas, ou que je transforme, ou que je censure.
Et il y a aussi possiblement une place que je laisse, c'est-à-dire qu'à la fois c'est les deux. Si vous êtes lu, peut-être vous ne dites pas tout, mais en même temps vous offrez aussi une possibilité à l'imaginaire du lecteur, à sa place, à ses histoires dont vous parliez tout à l'heure, Fab Caro.
Oui, c'est ça, oui, il y a des ellipses comme ça où les gens peuvent s'identifier à des choses.
Vous parlez beaucoup de couples, en tout cas dans les derniers livres, En voilà un fameux.
J'en ai marre, je veux plus te voir. T'entends, je veux plus te voir, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta sale tête. J'en ai marre de ton sinoge. Fous le corps que je t'en vois plus.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait.
Oh, qu'est-ce que tu m'as fait en 5 ans? Je peux plus te supporter, je t'aime plus. Tu n'es plus ma raison de vivre. J'ai toujours su que jamais je pourrais vivre avec toi.
Allez, viens, on va chez tes parents.
Ah non, je veux pas que t'ailles voir mes parents. Ils doivent se supporter comme ça, ils te détestent, ils ont vu comment tu me traites.
Ah oui, ils te montrent le coup, hein. C'est comme Annie, ils ont jamais pu me piffer.
Mais mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont eu le courage de te supporter à chaque fois que tu venais les embêter. J'ai peur, j'en ai marre de toi, parce que j'ai peur.
Je vais y aller tout de suite. Tout de suite, je vais y aller.
Ah non, je veux pas que tu y ailles.
Je vais vous tuer, et puis je vais me tuer moi aussi.
Mais genre, t'es fou!
Bon, je te demande pardon. Je me suis emballé. Tu sais comment je suis quand je suis malheureux. Bon, je t'aime trop, c'est pour ça. Si tu veux pas que je t'embête, je t'embêterai plus. C'est fini. Tu m'aimes plus. Je t'en verrai plus.
Non, c'est fini. Promets-moi de ne plus jamais essayer de revenir.
Marlène Jobert et Jean-Yann dans « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Maurice Pialat. On sent dans cette scène de cinéma que les choses, elles peuvent bouger en quelques secondes et peuvent se retourner dans une scène de couple en quelques secondes. Vous, dans le dernier ouvrage « Moins qu'hier, plus que demain », ça fonctionne de cette manière-là, en vignette, en scène. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette économie de temps et celle d'une scène de cinéma ?
En tout cas, j'ai l'impression que je travaille de manière très cinématographique. Enfin, moi, je suis très influencé par le cinéma. D'où le côté, cette espèce de plan-séquence comme ça, le côté répétitif, le côté gaufrier.
C'est presque un storyboard, quoi, presque,
en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus sur le texte que sur l'image. L'image, ça pourrait être des... Voilà, c'est pas du dessin de virtuose, ça pourrait presque être des bonhommes en bâton ou des monsieur patates. C'est un très... Je voulais que le dessin soit... C'est presque des coquilles vides, en fait, pour que n'importe qui puisse s'identifier. Et la mise en scène, voilà, c'est justement... Le côté répétitif permet de... Alors déjà, j'aime bien le côté en humour. Je trouve que ça fonctionne beaucoup. Ça fonctionne pas mal de faire comme ça, la même scène avec une variation de texte. Mais ouais, c'est très cinématographique, en fait.
Quand vous dites que l'influence du cinéma est grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un grand cinéphile, que vous en regardez beaucoup, que c'est entré comme ça en vous, dans votre culture visuelle, dans votre culture, y compris humoristique, par exemple?
Grand cinéphile, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que je suis plus influencé par le cinéma que par la BD elle-même. Je m'aperçois, malgré moi, même que j'utilise pas mal de codes du cinéma.
Lesquels, par exemple?
Oh, je sais pas, ça dépend vraiment des albums. Il y a des albums, je pense à un album qui s'appelle Moins 20% sur l'esprit de la forêt, où j'ai complètement déconstruit. Alors, la comparaison va sembler, ça n'a rien à voir,
c'est
bien sûr.
C'est pas grave.
Mais c'est une époque où j'aimais bien, je revoyais les films de Godard, je revoyais Pierrot le Fou, ou des films de Lynch comme ça. Alors, ça n'a rien à voir, bien sûr. Moi, je fais de l'humour. Mais le côté construction narrative, le côté de déconstruire, justement. Ne pas forcément suivre une ligne narrative. Et moi, je me suis aperçu que j'appliquais ça aussi à la BD. Pour rester excité, je ne fais pas de scénario, j'improvise en permanence. Pour rester excité, du début à la fin, je ne passe pas par l'étape scénario, crayonné, dessin.
Un cinéma libre, quoi, sur la page.
Ouais,
quelque chose
ouais,
qui ne
ouais.
sait pas où ça va exactement.
Ouais, oui, ça me permet de rester excité du début à la fin d'un projet, parce qu'on passe quelques mois, et encore moi, je vais très vite, parce que les dessins ne sont pas super, donc ça va très vite. Mais ne serait-ce que passer 3-4 mois sur un bouquin, il faut rester excité du début à la fin, sinon c'est nul. S'il y a une espèce de ventre mou au milieu, qu'on se dit « Oh, pourquoi je fais ça ?» Donc,
mais si on prend les planches, par exemple, donc ça veut dire que vous commencez une page, il y a 6 cases, et peut-être, bon, vous ne savez pas où ça va.
Souvent d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ouais. Et encore là, c'est très fractionné, donc je sais à peu près ce que je vais dire. Mais quand je pars sur du long récit, c'est souvent de l'impro, justement pour rester, pour m'amuser déjà. Je crois que c'est ma première contrainte. Je pense jamais au lecteur, je pense à m'amuser moi, c'est vraiment
Est-ce
le truc.
Est-ce que vous faites rigoler parce que donc nous avons tous lu le livre et on a tous dit qu'on avait tous rigolé partout, à la maison, dans le métro, dans la rue. Vous finissez vos planches en rigolant ?
Oh non, je vais pas dire ça. Ça fait le mec qui est content dans ses trucs et qui rigole tout seul.
Hein. Bah, c'est important, vous avez dit que c'était votre premier ingrédient.
Oui, enfin, rigoler peut-être pas, mais en tout cas, il faut que je me dise, c'est rigolo, ou que ça me fasse sourire. Il arrive que je rigole.
Mais c'est pas une once, non? Je sais pas, quand on a envie de faire rire les autres, vaut mieux commencer par rigoler soi-même.
Oui,
non
mais en disant, je m'aperçois que si, c'est un petit peu honteux de rigoler à ses propres trucs. Non, c'est pas. Ça fait bizarre, ça veut dire « Ah, je me fais rire, c'est bizarre. »
Moi, je trouve ça hyper normal.
D'accord, bon. En tout cas, je m'amuse. Je ne sais pas si je me fais rire, mais je m'amuse. C'est surtout ça, le truc. Se dire, voilà, arriver à une chute, voilà, avoir, en tout cas, à minima, un sourire. Peut-être pas un rire sonore, mais voilà, être content de ce qu'on a fait.
Comment vous avez travaillé concrètement pour ce livre-là ? Donc, je le redis, c'est une sorte de journal d'une journée entière, mais qui passe d'un couple à l'autre. 11h30, Maëva et Guilhem. 11h13, Malika et Jules. Justine et Cédric. Midi 16, midi 42, Carla et Sébastien. Et à chaque fois, sauf pour un seul couple, Géraldine et Fabien, on a une situation très très précise. Vous avez tendu l'oreille dans les cafés, vous avez scruté votre propre histoire de couple ou vos propres histoires d'amour.
Ouais, mais il y a un petit peu tout ça, il y a du vécu, enfin pas tel quel heureusement, mais il y a un petit peu de vécu, il y a un petit peu d'observation, et puis surtout c'est des situations très banales. Finalement, je partais de situations de couple, le point de départ c'était ça, le point de départ de la situation, c'était le repas. Qu'est-ce qui se passe au repas? Ou les vacances? Ou la rencontre? Ou comment on vieillit ensemble? Je partais de... Ou les courses? Mais vraiment de situations, des archétypes en fait, des situations très banales. Et à partir de ça, comment je peux pousser le curseur, soit vers de l'absurde, soit vers de l'humour noir en fonction des scénettes. Mais parfois, je vais faire du mauvais esprit, mais j'avais l'impression de ne pas avoir à pousser beaucoup le curseur. Le couple en soi, c'est déjà... un truc qui marche pas super bien, enfin qui en tout cas qui est... Moi je me suis aperçu que je travaillais beaucoup sur des j'avais beaucoup de tendresse pour les choses qui marchaient pas bien, les losers, les gens qui réussissent pas, les choses qui marchent pas, et du coup le couple c'est un super terreau pour ça, parce que ça marche pas, c'est un truc qui marche pas, c'est une invention qui est jolie mais qui marche pas super, et du coup c'était pas très compliqué, enfin très compliqué de partir d'une situation du quotidien et de voir jusqu'où je pouvais la faire dériver.
Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites « Oh non, je peux pas faire ça quand même
» Ça m'est arrivé, mais après je le fais quand même. Parce que faut pas s'interdire. On peut aller où on veut, on peut rire de tout, je pense.
Quand on entendait la voix de Marlène Jobert et Jean-Yann se séparer d'une certaine manière dans cette voiture, je me suis dit que peut-être il n'y avait pas de rupture à proprement parler dans vos livres, que ça ne se terminait pas, en tout cas pas dans « Moins qu'hier, plus que demain ».
C'est vrai. Il y a du conflit. Il y a du conflit,
ça va pas. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'ennui parfois. Il y a des petits pics, des méchancetés, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des fins. Peut-être je me trompe, hein.
Bah non, c'est vrai. C'est marrant. J'avais pas analysé, mais ouais, c'est possible. Ouais, il y a jamais de fin. Peut-être. Ouais,
ça veut dire que ça marche pas, mais ça tient debout quand même le couple.
On fait comme on peut en fait. On fait avec ce qu'on a. C'est un truc, cette espèce de truc qui est pas naturel, mais on essaie
d'être à deux.
Ouais, bah oui, mais on veut que ça marche. Enfin, il y a une image qui m'est venue il n'y a pas très longtemps. Alors, ça va faire un petit peu le poète à deux balles, mais il y a les huppes, vous savez ce que c'est? Les huppes, les oiseaux avec des longs becs, comme ça, avec le retour du printemps, ils reviennent chez moi. Et en fait, j'aime bien cet oiseau parce qu'il a un vol hyper chaotique. Il vole comme ça en zigzag, il a l'air complètement saoul. Et les huppes, elles volent souvent par deux. Et en fait, j'étais en train de fumer ma clope et de regarder ces deux huppes qui volaient n'importe comment. Je me disais, mais en fait, c'est ça le couple. C'est chaotique, on ne sait pas où on va, on va n'importe où, on ne sait pas où on va, mais on y va à deux. Et j'ai trouvé cette... Voilà, bon, c'est nul comme image, mais j'ai trouvé ça assez joli. Et si ça se trouve, ce n'était pas un couple, d'ailleurs, je suis dû à une ornithologie, si ça se trouve, c'était même deux mâles. Mais c'était pas... Mais l'idée est jolie, je trouve que ça ne fonctionne pas, mais d'essayer que ça fonctionne, je trouve ça assez beau.
D'ailleurs, vous vous débrouillez pour en mettre, même quand ça n'est pas le sujet central de votre histoire, parce qu'on sent que c'est un laboratoire pour vous de tension dramaturgique, qu'il y a forcément des histoires qui vont venir si on essaye qu'il y ait un couple dans une histoire, Fab Caro.
Ouais. Déjà, je trouve ça beau. Moi, j'aime bien l'histoire d'amour. Et puis, d'un point de vue narratif, c'est très riche, c'est très moteur. Même dans les histoires qui sont pas des histoires d'amour, je me suis toujours débrouillé pour, dans Galluron, j'ai placé une histoire d'amour, on a fait une parodie de Zorro, finalement, le fil rouge, c'était une histoire d'amour aussi. Je me débrouille toujours pour placer une histoire d'amour au milieu.
Alors, vous aimez en écrire ou parce qu'il vous semble que c'est agréable à raconter? Bon, c'est pas exactement la même chose.
Les deux. Je trouve ça beau. J'aime bien introduire du beau, que l'humour soit pas monolithique. Introduire quelque chose de beau et de romantique dans quelque chose qui soit pas que de l'humour brut, quoi, pur et dur.
Veut dire que tous ces couples qui sont dans des situations assez grinçantes et que vous croquez, vous conservez une tendresse ou vous imaginez que les êtres entre eux conservent des tendresses?
Moi, j'ai de la tendresse, ouais, pour les personnages. C'est vrai qu'il est pas très pro-couple, ce bouquin. Quand on le lit, on se dit, oh là là, c'est... Alors que moi, je trouve ça très beau. Même un couple qui essaie, qui est conflictuel et qui essaie que ça marche, je trouve ça assez beau. Moi, j'ai vachement de tendresse pour tous ces personnages. Et puis surtout, bon, il y a sûrement des couples qui marchent, mais ça ferait des bouquins moins rigolos. On fait pas rire avec les bons sentiments. Du coup, c'est bien de faire des choses avec les failles, à partir de failles. Mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de tendresse pour ces trucs qui sont un petit peu fêlés comme ça.
Du nouveau sous les sunlights du roman photo français. Nous deux et Intimité font peau neuve. Prudemment, bien sûr, et sans remettre en cause les règles sacrées du genre. Décor de rêve, personnages jeunes, beaux, riches et en bonne santé, intrigue imperturbablement mélo, dénouement désespérément heureux. Une technique dans laquelle les équipes italiennes ne craignent personne sur le marché de l'eau de rose.
Je connais le début de l'histoire, mais à la fin, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Sans doute qu'on sera tous contents. Ça finit bien, ça finit toujours bien.
Ouf, nous voilà rassurés. Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, il s'en passe de belles dans le Nouvel Intimité et dans Nous deux, dernier cri. Des femmes qui ont l'audace de travailler pour gagner leur vie, par exemple. Pire encore, des effrontées qui n'attendent plus d'avoir la bague au doigt pour passer au lit et qui n'hésitent pas, en cas de pépin, à envisager carrément l'avortement.
C'est-à-dire, on lit des horreurs maintenant dans vos romans photos, des jeunes gens, par exemple, qui ne sont pas mariés, qui vivent sous le même toit.
Mais effectivement, c'est vrai, ça raconte des histoires d'aujourd'hui, les filles, parce que les lectrices le demandent, qu'elles veulent à la fois qu'une histoire soit romantique et réaliste. C'est un passage qui n'est pas toujours facile à trouver. Et on doit quand même le trouver, soit par le texte, soit par l'image, ce qui est encore mieux par les deux à la fois, bien sûr.
Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo. Io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, da un quadro l'alba da ciò che non c'è, penso ancora di te che ti amo, tanto lontana non so se sarai, tanto vicino ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti amo. sais tout.
Voilà, bah peut-être juste pour passer ce disque en fait sur France Culture, je suis vraiment très heureuse de vous avoir reçu, Falcaro.
C'est super beau.
Juste avant, on entendait une archive de 1989 qui expliquait comment les codes du roman photo étaient en train de bouger. Mais ce que je trouve assez intéressant avant de revenir à la question du roman photo, c'est qu'en en écoutant Richard Cocciante, vous avez dit « En fait, j'aime et j'aime au premier degré ». Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue dans ce que vous faites, vous, Falcaro, c'est précisément l'idée que tout serait au quatrième degré, mais aussi au premier.
Oui, oui, oui. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais j'assume aussi le côté première lecture, premier degré, de ça dépend des bouquins, mais sur les sentiments, sur pas mal de choses. Voilà, pour la musique, j'aime les choses très sirupeuses comme ça, je les aime au premier degré aussi. Pas sur un second degré, on se dit, on écoute ça, mais on s'en fout, ça ne touche pas. Si, moi, ça me touche vraiment, quoi, c'est des trucs comme ça, ouais.
Des cris d'amour.
Mais oui.
Ça vaut aussi pour le roman photo, le premier degré, ou non, directement, vous êtes allé au quatrième degré? Parce que pour un livre comme « Et si l'amour, c'était d'aimer », donc c'est un livre qui est paru un petit peu plus tôt que celui pour lequel on vous reçoit ce soir, vous retravaillez avec ces codes du roman photo, ce n'est que de la blague, ou est-ce qu'il y a, dans votre expérience de lecteur, quelque chose qui vous touche dans les romans photos?
Alors moi, j'ai pas connu ça, enfin pourtant je suis un petit peu vieux, mais j'ai pas connu ça à l'époque, moi je suis de 73. Mais je voyais traîner ça chez moi, donc je n'étais pas forcément lecteur. Mais ça faisait quelques années que je tournais autour de l'idée de faire une histoire d'amour drôle. Mais vraiment que ce soit qu'une histoire d'amour. D'habitude, j'en place toujours dans des bouquins. Mais là, je voulais que ce soit le sujet vraiment unique. Mais je n'arrivais pas à trouver l'angle. Je me disais, c'est pas évident de faire rire avec une histoire d'amour. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû retomber sur un vieux roman photo. Je me dis, mais oui, c'est ça. C'est...
Et vous avez ri?
J'ai ri en... Ouais, mais justement, j'ai commandé des romans photos après sur Internet pour voir un petit peu comment c'était construit. Et là, pour le coup, j'avais du mal à rester au premier degré sur les romans photos de l'époque. Alors, c'était des vieux trucs, c'était des... Ouais, peut-être années 60, un truc comme ça. Mais c'était presque... Là, pour le coup, c'était presque drôle. C'était écrit au premier degré, mais en le lisant, je me dis, mais c'est pas possible.
Et alors, qu'est-ce qui vous faisait rire dans ces romans photos?
Le côté ultra codifié, et puis les... Et puis les textes aussi. Souvent, c'était des trucs... les romans photos, c'était souvent les trucs italiens, justement. Pas les deux. Qui étaient traduits. Et alors, il fallait que ça colle. Narrativement, il fallait que ça colle. Et des fois, il y a des textes. Je sais pas, le type se sert un verre. Il dit, je me sers un verre. C'est des choses hyper redondantes. Et je trouvais ça déjà drôle au premier degré. Alors que ça se voulait pas drôle. Et l'idée, c'était de... Sur ce coup-là, de partir des codes du roman photo, avec ces trucs, ces poses très figées. Oui, puis les poses aussi, c'est à mourir de rire. Ces regards très ténébreux, comme ça, toujours des... De partir de poses très figées, et puis de leur faire dire un petit peu n'importe quoi. Il y avait un côté régressif aussi à ce truc-là.
Parce que bon, peut-être pour dire un peu l'histoire, hein, vous dites avoir mis du temps à trouver ce scénario pour faire rire avec une histoire d'amour, mais quand vous l'avez trouvé, en revanche, ça y est, ça s'était bien installé, un couple... extraordinaire dans une villa, ils ont vraiment tout pour être le meilleur des couples, et d'ailleurs ils ne cessent de se le dire entre eux, un soir se fait surprendre par un livreur de Macédoine, et tout bascule d'une certaine manière, parce que le livreur de Macédoine est très beau, très brun, avec des yeux très noirs, et séduit beaucoup la femme du couple,
voilà.
Et là c'est parti.
Voilà, c'est le déclencheur, mais c'est souvent les romans photos, enfin j'en ai pas lu énormément, mais j'en ai lu 3-4, et c'est souvent un petit peu le même principe narratif comme ça. Il y a le couple, puis il y a l'histoire de l'adultère, mais à la fin, puis il y a une autre, et puis à la fin ça finit bien, parce qu'il faut que ça finisse bien toujours. Moi ça finit pas terrible, mais il faut que ça finisse bien. Oui, alors chaque fois le pitch, ça tient sur un post-it, quoi. C'est toujours la même histoire. C'est pas tant sur l'histoire que j'ai, c'est plus sur la forme que j'ai mis du temps à appréhender la forme. Mais une fois que je l'ai eu, l'histoire il n'y a pas plus banal comme histoire. C'est une histoire
d'adultère. Oui, sauf que vous détraquez, en fait, à chaque fois, vous détraquez des petits passages. Vous détraquez, bon, je disais simplement le fait que ce sont des Macédoines qui se font livrer et pas des pizzas ou des très bons plats. Voilà, à chaque fois, il y a ces petits moments où, en gros, on lit quelque chose qu'on ne s'attendait pas à lire et de là vient le rire, d'une certaine manière, Falcaro.
France Culture. Par les temps qui courent. Marie Richeux. Oui, essayer de mettre de la fantaisie dans quelque chose de très très carré, espèce une façon de ruer comme ça. Oui, l'idée de Macédoine, il fallait que le livreur, il ait une... Bon, je me disais, c'est marrant, on se fait toujours livrer des choses, des trucs super bons, des pizzas, des sushis. Pourquoi on se fait pas livrer des trucs dégueulasses? Alors j'ai essayé de chercher quel est le plat qui est le pire de la création. Et j'ai pensé à la Macédoine, ce truc qui existe que dans les cantines scolaires. des espèces de légumes qui vont pas ensemble, on met de la mayo pour que... Et donc j'aimais l'idée que ce... Ouais, cette espèce de brun ténébreux comme ça, soit livreur d'un truc... Ouais, ils débarquent comme ça dans leur vie, avec une fonction totalement décalée. Quoi.
Quand vous dites que vous détournez les codes de ce roman photo, codes que vous utilisez aussi, moi j'ai beaucoup pensé en lisant ce livre-là, mais aussi Moins qu'hier, plus que demain, à un autre détournement, celui-ci télévisuel, puis internet, qui s'appelle Message à caractère informatif, qui prenait des plans vidéo et qui les doublait avec des voix qui a priori n'avaient rien à voir. Et il me semble que dans cette espèce de petit décalage-là se situe sinon ce qu'on pourrait appeler votre humour, mais une petite signature, Fab Caro, est-ce que ça vous parle ?
Ah oui, ça me parle, oui, ça... Ben là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça aussi. Eux détournaient des images d'entreprise, je crois, des trucs comme ça. Et là, c'est un petit peu ça, moi je détourne, alors sauf que je les ai redessinés. Mais c'est un petit peu le même principe, on part de choses très figées, très carrées, et puis on les fait partir ailleurs, quoi. Ça me parle. Ouais.
Est-ce que ça induit une façon de dessiner particulière? Parce que on retrouve pas le trait tout à fait qu'on peut vous connaître. Vous êtes beaucoup plus dans des détails. Les silhouettes sont très différentes. Les plis, les costumes. Ça vous a amené à dessiner de quelle manière?
Moi, comme je me sens pas dessinateur, je me sens.
Oui, vous l'avez beaucoup dit déjà depuis le début de cet entretien, que c'était bof le dessin.
C'est vrai, bon. Oui, parce que je me sens plus scénariste. Et du coup, je suis affranchi du style de dessin. Je fais ce que je veux. Je veux dire, je me sens pas obligé de coller un style. Vu que j'ai pas de style, je me dis, le dessin doit coller au scénario. Et en l'occurrence, là, il fallait que ce soit quelque chose de très réaliste. Pour du roman photo, il fallait que je dessine du roman photo. Et accessoirement, moi, je sortais de Zaïzaï qui était pas du tout dessiné, où c'était juste des traits. Et je passais par une période, c'est souvent cyclique comme ça, je passais par une période où j'avais envie de dessin de nouveau, un truc plus organique. Dessiner du roman photo, vraiment essayer de faire quelque chose de réaliste, de plus chiadé, de plus graphique.
Ce qu'on entendait aussi dans cette archive de 1989, c'est qu'à l'époque, peut-être un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, ça touchait énormément de monde, les romans photos. Alors bon, c'était principalement conjugué au féminin, les lectrices, mais on sait qu'en fait, un magazine qui traîne dans un appartement, il est lu par tout le monde. Et donc en fait, il y a aussi l'idée que c'est produire une forme qui serait, comme qui dirait, populaire. Est-ce que ça vous intéresse ?
Moi, je suis très attaché à la culture populaire. C'est pour ça que je fais en même temps des parodies. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une parodie, mais...
Il y a un peu de distance, on va dire.
Oui, voilà. Mais en même temps, c'est des hommages. C'est toujours moitié parodique, moitié hommage. Et là, c'est le cas aussi. C'est aussi une forme d'hommage à la culture populaire. J'avais fait aussi un truc qui s'appelle La Bredoute, qui était une parodie de La Redoute. Et c'était pareil, c'était un petit peu la même idée. C'était une parodie, mais en même temps, c'était un hommage à cette culture populaire des années 70-80. Parce qu'on le veuille ou non, enfin, moi j'ai grandi là-dedans. Après, on peut faire un rejet, on peut faire ce qu'on veut. Ben, on a poussé là-dedans, quoi. Donc, et avec l'âge, finalement, on porte un regard assez tendre là-dessus. On passe par une période de rejet, on se dit, on jette tout ça.
Ça prenait quelle forme, la période de rejet de la culture populaire, chez vous?
Oh, ben, c'était je pense, comme tous les gens de 17-20 ans, c'est-à-dire une espèce de snobisme où on essayait de n'aimer que des choses que personne n'aimait, voilà, Il fallait que les groupes qu'on aime, il fallait qu'il n'y ait que 3 personnes au monde qui les connaissent, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Ou que ce soit que du bruit, il fallait que ce soit des cassettes pourries, avec que du bruit de 90 minutes. Et ça, c'était chouette. Et personne n'aimait, mais nous, on aimait, alors c'était bien.
Et là, il y a un retour, c'est un retour vers quoi? C'est le plaisir du partage aussi, l'idée que c'est possible d'écrire et de partager des choses avec un plus grand nombre, mais que c'est pas honteux et que c'est finalement
assez
agréable.
Ouais, après, je crois qu'on se débarrasse de. Je crois que ça vient avec l'âge aussi. Bon, ça dure pas longtemps, cette histoire de rejet. Après, on se débarrasse de tout ce qui est pas. De tout ce qui est de l'ordre de l'image et de l'apparence. On revient à des choses qui nous ont faites, qui nous ont construites. Et moi, j'ai été construit, je suis né d'un milieu très populaire. Mais on revient à ça, c'est ce qui m'a fait, je suis fait de ça. Et puis c'est bien de se servir de... C'est un terreau génial, je trouve.
Je n'ai jamais été visionnaire. D'ailleurs, je suis myope et j'ai oublié de mettre mes lunettes. Donc, je ne suis pas visionnaire. Et j'avais aucune impression de faire quoi que ce soit de spécial. Ma maison, c'était pilote. C'était la rubrique à braque. C'était le bonheur que j'avais à travailler sur mes propres ouvrages dans Pilote. Et comme je savais que dans les types comme Chrome et tout ça, il y avait une bonne dose de fesses, de cul et de porno et de scato, moi ça m'amuse à faire. Je vais vous dire une chose, mais ne le répétez pas, c'est que moi, il n'y a rien qui me fait plus marrer que la scatologie. C'est ignoble, hein, mais c'est comme ça. J'ai un petit faible pour Gailluron, parce que, d'abord, c'est le premier personnage qui venait de moi, et pour moi, Gailluron, c'est un mal-aimé, pour utiliser une expression romantique, parce que, pour tout le monde, mes premiers travaux, c'est la rubrique à braque. Or, j'ai fait Gailluron bien avant, et j'étais heureux et content comme tout de faire Gailluron.
J'ai jamais eu l'impression d'être visionnaire, de toute façon je suis complètement myope, dit Marcel Gottlieb ici au micro de Clara Dupont-Monod en 2014 sur France Inter. On vous fait entendre cette archive parce que c'est une des influences que vous citez régulièrement, Fab Caro, et aussi parce que vous avez eu quelque chose à voir avec Gailluron. Peut-être un commentaire en écoutant cette voix-là, et puis ensuite on va...
Je suis ému chaque fois que je l'entends. Oui, en plus ça a l'air assez. Il était déjà un petit peu âgé.
C'est 2 ans avant sa mort.
Ouais. Ça m'émeut chaque fois que je l'entends. Ouais.
Parce que c'est des gens que vous avez, comme lui, lu, observé, dont vous avez creusé l'œuvre pour vous mettre sur le chemin de la vôtre propre.
Ouais, bah ça a été une espèce de figure, j'allais dire paternelle, c'est un petit peu excessif, mais ça a été une des premières idoles en fait quand j'ai lu de la BD. Alors bon, je suis passé par le stade tout. Astérix, Lucky Luke, Tintin, ce genre de choses. Mais quand j'ai commencé à vouloir chercher des choses par moi-même, ça a été Gottlieb, ça a été un petit peu mon idole de 14, à partir de 14 ans, 13 ans, jusqu'à pendant... Ouais, ça a été ma première idole de BD.
Et pour quelle raison ?
Bah déjà, le trait, graphiquement, c'était exceptionnel. C'était un dessin exceptionnel. Et puis, je pense que c'est l'âge aussi. Ouais, j'ai découvert ça à 13... Il y avait un petit côté transgressif. Alors, pas Gailluron... particulièrement, mais les Ra Lovely, Ragnagna, moi je lisais ça un petit peu en cachette parce que c'était assez transgressif, quoi. C'était les débuts de l'écho des savanes à l'époque, il y avait ça avec Bretéché et Mandrika, et ils commençaient à expérimenter des nouvelles formes narratives, et moi j'étais bluffé par la liberté de bon, alors graphiquement le dessin, puis la liberté de ton, la liberté narrative. Non, j'étais vraiment très impressionné.
On parlait de ça tout à l'heure lorsque vous avez commencé à prendre conscience du lecteur et peut-être à l'idée d'une petite autocensure qui débarque en même temps que l'on prend conscience qu'on s'adresse à une population. Comment est-ce que vous conservez cette liberté de ton et l'idée que finalement sans elle, peut-être votre travail disparaît?
Ouais, ben j'essaie de m'affranchir du lecteur en fait. Pendant que je suis en train de faire un livre, je pense pas du tout au lecteur. Je pense de manière très égoïste, je pense à moi. Je me dis, il faut que je m'amuse. Et j'essaie d'oublier le fait que je vais être lu. Je crois que si on fait un livre pour qu'il soit lu, ou en se disant, je vais m'adresser à tel créneau, à telle personne, à tel... je crois qu'on... Ouais, c'est pas terrible.
Et c'est un oubli qui marche encore, qui est encore possible aujourd'hui.
Ouais, enfin...
Je dis ça juste parce que, bon, entre parenthèses, pour les personnes qui ne le savent pas, par exemple, Zaï, c'est énormément vendu,
oui,
donc il y en a des lecteurs.
Oui, c'était plus facile avant de me faire croire que j'étais pas lu. Là, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi. Mais le stade de création, c'est un état un petit peu... On est dans une espèce de bulle. Quand j'ai l'idée d'un projet, que je me lance dans le projet, ben je suis que dans le projet, je pense pas du tout à ce qui va se passer après. Donc c'est assez facile de me lâcher, de faire ce que je veux, de m'amuser, sans penser au fait que ça deviendra un livre, que ce sera lu. Donc ouais, c'est un état un petit peu, ouais, une espèce de parenthèse enchantée comme ça. Après, une fois que j'ai fini mes pages, que j'envoie à l'éditeur, là d'un coup j'ai une espèce de lucidité, la réalité revient au galop, et je me dis, ah mais merde, ça va être lu en fait.
Aussi parce que c'est un premier regard, et un regard très très important, pour parler peut-être un peu de votre travail avec Six Pieds Sous Terre, puisque Gottlieb parlait de sa maison, et de l'importance d'avoir trouvé une maison, peut-être que d'être tombé aussi sur un éditeur qui vous suit, qui travaille avec votre liberté aussi, c'est important, Fab Caro.
Oui, j'ai carte blanche, c'est vraiment un luxe incroyable. La première fois que je me suis essayé à faire un petit peu d'expérimentation, c'était un bouquin qui s'appelait La Clôture, qui est très déconstruit. Je savais pas où j'allais, j'improvisais complètement. J'ai fait 15 pages improvisées, incompréhensibles. Et puis j'ai envoyé ça à l'éditeur, j'ai dit, voilà, j'ai ça, je sais pas où je vais, c'est complètement improvisé, je sais pas où je vais. Il m'a dit, bah, parfait, continue. Et je me dis, mais c'est quand même un luxe d'avoir des gens comme ça, quand on leur dit, c'est n'importe quoi, je sais pas où je vais, qui te disent, bah, vas-y, continue. Donc c'est un rapport de confiance qui se crée comme ça et qui est... Ouais, je trouve que c'est un luxe dans la création comme ça.
On entendait Gottlieb dire que Gailluron faisait partie des mal-aimés, des personnages mal-aimés. Est-ce que vous êtes d'accord?
Et alors moi, Gailluron, je suis un petit peu mal placé. Ouais, moi, Galluron, je lisais pas, justement. Moi, quand on m'a demandé de reprendre Galluron, j'ai dû admettre que j'avais lu Ralovli, j'ai lu Ragnagna, les Dingos Dossiers, tout ça. Mais j'avais jamais lu Galluron, parce que pour moi, à l'époque, c'était plus enfantin. Donc, il a fallu que je m'y replonge. Mais ouais, c'est peut-être vrai, ouais.
Et alors, ça fait quoi de reprendre un personnage, hein? Parce qu'on entendait la Marcel Gottlieb dire que c'était important pour lui parce que c'était devenu un personnage principal, venu d'un personnage qui était d'abord secondaire. Mm-hmm. Lorsque vous vous retrouvez avec l'idée de reprendre Galluron, ça se passe comment?
C'est hyper touchant. En fait, c'est l'éditeur qui m'a demandé si je voulais pas reprendre Galluron au scénario. Alors déjà, j'étais tétanisé. Alors j'ai fait quelques essais de scénario. Ils ont transmis ça à Gottlieb et Gottlieb a beaucoup aimé. Alors là, pour moi, ça a été la consécration. Je pouvais mourir après ça. C'était bon. J'avais tout fait. Mais c'est surtout, je pensais surtout au gamin que j'étais. Je me disais si on avait dit au Fabrice de 12 ans, tiens, tu sais que tu vas scénariser un truc de Gottlieb. J'avais l'impression de faire un cadeau au gamin que j'étais. Ça, c'est inestimable. Et après. Ceci dit, il a fallu se mettre au boulot et essayer d'oublier que je faisais du Gottlieb, parce que ça peut être très paralysant aussi de se dire qu'on reprend le boulot de notre idole d'enfance. Mais c'est de l'ordre du miracle, en fait. Ouais, c'est de l'ordre du miracle. Vous idolâtrez quelqu'un quand vous avez 14 ans, puis vous continuez son œuvre quand vous en avez 40. On m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru, c'est incroyable.
Ça récompense peut-être justement l'idée d'avoir cru, peut-être une opiniâtreté, quelque chose qui a cru dans le rêve d'enfant. Je crois savoir que vous dessinez, puis finalement on vous dit, bon, ce serait quand même pas mal de passer un bac, puis de faire quelques années d'études après, et puis vous vous dérobez à un oral de physique en vous disant que vraiment être professeur toute votre vie, ce sera pas ça, et dessiner. Bon, c'est pas rien de se dire ça quand même quand on n'a pas 20 ans.
Oui, mais il y a pas mal de gens qui font ça. C'est aussi un gros coup de chance. Moi, je crois beaucoup à la chance. C'est une loterie. Pourquoi moi? Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui prennent des risques, des auteurs qui essaient de se lancer comme ça, puis qui... Ouais, donc c'est pas si naturel.
Il faut avoir quoi, une sorte de courage?
Je crois que le courage, je l'aurais eu si j'avais été prof. Là, j'aurais eu le courage. J'étais vraiment pas fait pour ça. Non, ça a été de la lâcheté bienvenue, je crois. Ça a été une...
De croire dans votre pratique de dessin, c'était de la lâcheté bienvenue.
Ouais, ça a été une lâcheté salvatrice de me dire que, un boulot normal, j'y arriverai pas. Donc, je vais peut-être essayer de faire quelque chose qui me plaît, même si c'est pas un boulot normal. On va voir ce que ça donne.
Comme par dépit, vous diriez.
Par dépit, non, par peur, je crois. J'ai une espèce de frayeur. D'un coup, je me suis dit, mais attends, si j'ai mon concours, je suis prof à vie. Et alors que je sais pas faire ça, j'ai pas d'autorité, je suis... Et non, ça a été une espèce de peur.
Comme porte de sortie, en fait.
Ouais. Et alors, comme je savais pas trop quoi faire, je me dis, mais si je fais pas ça, le seul truc que je savais faire, je savais même pas si je savais le faire, mais que j'aimais faire en tout cas, c'était écrire. Donc je me suis dit, voilà. Essayons d'écrire, on va voir ce que ça donne.
Il y en a un autre dont vous citez de temps en temps le trait, même si vous dites que vous êtes un piètre dessinateur, je pense que le dessin vous intéresse de temps en temps, Fab Caro, c'est Bouzard.
Alors d'abord, je dessine toujours l'oreille. Je commence toujours par l'oreille, quels que soient mes personnages, parce que ça c'est un tic de dessinateur. Ensuite, j'ai les cheveux. Voilà. Il y a un truc qui est très important, bien sûr, qui est la mèche. Alors la mèche, moi j'ai trouvé un truc très, très graphique. C'est pas vraiment la mèche de Lucky Luke qui est plutôt comme ça, je dirais. Alors le nez, voilà, c'est un nez... qui a vachement évolué au fur et à mesure de l'album. Au début, il était plutôt allongé, il était plutôt comme ça, très fin. Le foulard, qui est censé être rouge, mais vous verrez que de mon histoire, ça évolue un petit peu aussi. Et après, le petit gilet, la petite chemise. Puis après, les mains. Quelque chose qui était très difficile à dessiner pour moi aussi, c'est le pistolet. Parce que j'avais jamais dessiné de pistolet et je trouve que la crosse, c'est un truc assez dur à dessiner. Donc je la rate une fois sur deux. Là, on dira que c'est pas trop mal. Et puis les jeans, je les fais toujours comme ça, moi. C'est-à-dire, j'ai toujours une petite coquetterie. J'ai dû voir ça, ce graphisme-là, dans des petits fumetti avec Zambla ou des choses comme ça, où il y avait un jean un jour. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Donc je fais comme ça maintenant. Et voilà mon Lucky Luke, à peu près comme dans l'album. Petite signature. Et vous avez là un magnifique Lucky Luke à la Bouzard.
Un Lucky Luke signé Bouzard, c'est une leçon de dessin devant la caméra de France Inter. Vous le signalez, Bouzard, entre autres, hein, référence, parce que vous aimez son trait. Qu'est-ce qui fait qu'on aime le trait de quelqu'un? Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrêtez pas de dire que, d'une certaine manière, vous n'en avez pas?
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aime le trait? Alors, ça, je ne sais pas si on peut l'expliquer. C'est une espèce de truc qui rentre en résonance. C'est du ressenti, mais Bouzard, pour moi, c'est un virtuose du trait. Alors, on ne dirait pas comme ça, parce qu'on pourrait dire... Les gens souvent cherchent des choses très 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 léchées, très... alors que lui il va direct à l'essentiel. Moi c'est ce que j'appelle la virtuosité du trait, c'est-à-dire un petit peu ce que faisait Reiser, c'est-à-dire en quelques traits exprimer ce qu'on veut exprimer sans forcément les chercher.
Et alors on pourrait dire Fab Caro que c'est ce que vous faites avec quelques traits exprimer ce que vous voulez exprimer.
Ouais, alors sauf que quelqu'un comme Bouzard peut tout dessiner. Je pense que moi, je peux pas. Moi, je suis très limité dans le dessin. Vraiment, j'ai l'impression de faire de la fausse modestie ou de m'auto-dépression en permanence, de toujours défendre mon incapacité à dessiner. Mais c'est moi, je suis assez limité. En fait, je dessine que des choses que je. En fait, je vais prendre à l'envers. Je scénarise que des choses que je peux dessiner.
Il y a des choses que vous aimeriez raconter et comme vous ne savez pas les dessiner, du coup, vous ne les racontez pas.
Ben ouais, ça m'arrive, ou alors je trouve des billets un petit peu tordus. C'est-à-dire, j'ai fait une espèce de parodie de western, dans moins 20% sur l'esprit de la forêt. Je me suis dit, tiens, je vais faire un western, ça peut être rigolo. Mais d'un coup, je me suis dit, mais attends, tu sais pas dessiner les chevaux. Alors je me dis, bah tant pis, il y aura pas de chevaux, ils vont courir en se tapant sur la fesse, comme les enfants, vous savez, quand ils jouent à la course. Alors quand je sais pas dessiner un truc, je trouve un billet absurde. Mais il y a énormément de choses que je sais pas dessiner. C'est pour ça que je me considère pas comme dessinateur.
Alors qu'est-ce que vous savez très bien dessiner?
Très bien, rien du tout, mais je sais, je me débrouille à peu près avec les personnages, avec les physionomies. Ça, c'est un truc. Je suis passionné du corps, des expressions, du visage. J'adore ça.
Rien ne vous résiste. Par exemple, si vous avez une expression, une position, par exemple, dans les situations de couple, sur le canapé, à table, en repas, en voiture, il n'y a aucune, rien qui vous résiste.
Ah, rien qui me résiste. Si. Mais je peux exprimer,
ce que vous avez à dire.
Ouais, un sentiment. Je me sens pas limité par voilà, autant je sais pas dessiner une voiture, ni un cheval, ni une maison.
Il y a une voiture.
Ouais, mais je l'ai copié, j'ai triché. Ah. Mais les personnages, si je veux que la personne soit triste, je saurais dessiner une personne triste. Si je veux qu'elle soit gênée, je saurais le faire. C'est un petit truc que je sais faire. Mais je crois que c'est le seul. C'est pour ça que je me dis pas dessinateur, en fait. Un vrai dessinateur peut tout dessiner. Moi, je suis vraiment très limité, je vous assure.
Mais c'est pas rien de pouvoir dessiner les émotions qu'on a envie de faire vivre à ces personnages. D'aucuns diraient, vraiment, moi, je fais des visages sans yeux et sans bouche et sans expression parce que s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est les faire vivre, mes personnages. Vous détenez quand même une clé assez importante pour raconter des histoires.
Oui. Puis c'est heureusement que je sais faire ça parce que souvent mes BD, c'est pas des scénarios à grand spectacle. C'est souvent de l'intime, c'est souvent du lien. C'est de l'humain, donc ça, c'est toujours des liens entre les personnages. Donc heureusement que je sais un petit peu faire ça, enfin traduire des sentiments. Sinon, là pour le coup, je pourrais rien raconter.
Il y a un problème, Roselyne?
Le monsieur n'a pas sa carte du magasin.
Veuillez me suivre, monsieur, s'il vous plaît.
Non, mais je l'ai, mais elle est dans mon autre pantalon.
Mais oui, bien sûr, et comme par hasard, vous avez changé de pantalon.
Oui, il était sale.
Suivez-moi, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous faites?
Écoutez, je suis pas un bandit, je l'ai ma carte.
Attention, il s'enfuit. Roselyne, prévenez la direction.
Moi, je sais pas ce qui me retient.
Jean-Pierre, je suis lâche de radis, je suis de la ville, je suis désolé.
C'est l'heure, monsieur.
Je me faisais des scénarios où t'étais en train de lui parler de moi. Oh. Je lui disais que tu pouvais pas me regarder parce que sinon c'est tout le monde allait comprendre que t'étais amoureuse de moi. Tu voulais que ça reste un secret. Un secret entre Sandrine Fréau et toi. C'est pour ça que tu me regardais jamais. Oh. Et moi, je te répétais mentalement que si, tu peux me regarder. Les autres verront rien. Tu avais une veste un peu longue, bleue, genre kawaii. J'aurais pu trouver ça moche. Et pourtant, je trouvais ça magnifique. Ça te donnait une personnalité à part. Une hauteur qu'avaient pas les autres filles. Et en classe, j'ai passé mon temps à te regarder de trois quarts arrière. C'est pour ça que le jour où Monsieur Basset m'a interrogé sur l'année du début de la 5e République, j'ai répondu un truc qui avait rien à voir. J'avais pas entendu la question parce que j'étais en train de te regarder en imaginant que tu m'embrassais derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment C'est fou parce que tu vois, si on me demande aujourd'hui l'année du début de la 5ème République, je saurais pas répondre. C'est une date que je saurais jamais, que je pourrais jamais retenir parce qu'elle est parasitée à vie par cette image de toi en train de m'embrasser derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment.
Ben oui, ça y est, ça me revient. C'est pas toi, en sport, t'avais du mal à monter à la corde et Fabrice Gomez, il avait baissé ton jogging et tout le monde avait vu l'arrêt en cul.
Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la fois.
J'imagine que vous êtes complètement en mesure de chanter cette chanson en l'entendant.
Oui, je la connais par cœur.
Dans un karaoké aussi.
Ouais, j'adore.
Fab Caro, on entend évidemment Joe Dassin parce que Zaï 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 Zaï, pour parler de ce livre-là qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, mais aussi pour parler de l'adaptation qui en est faite sur scène par une bande de comédiens, notamment à la ferme du Buisson, en Ile-de-France. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre leur voix, dire des dialogues que vous avez écrits, sans que jusqu'à maintenant il n'ait de tessiture, qu'il n'ait de ton exactement, d'identité d'une certaine manière?
Ouais, alors c'est très touchant déjà de voir adapter comme ça. Et puis c'est assez perturbant parce que ils m'ont invité à aller voir le spectacle La Ferme du Buisson et très vite je me suis surpris à rire.
Et vous voyez quand même que vous faites rire finalement.
Non, alors justement j'ai ri, je me suis dit, mais attends, t'es en train de rire de ton propre texte, c'est alors que mon texte moi me fait pas rire. J'ai pas relu Zaï Zaï, je ris pas en lisant mes BD. Mais en fait, je me suis dit non, mais en fait tu ris pas de ton texte, tu ris de ce qu'ils en ont fait. Et ils ont fait quelque chose de... Oui, c'est le son approprié, je trouvais ça super. Alors après, je me suis détendu avec ça, j'ai ri tout le spectacle, en me disant, non, tu ris pas de ton livre, tu ris du spectacle.
Et qu'est-ce qu'ils ont opéré comme petite transformation qui fait que d'un seul coup, c'est plus votre BD, mais c'est quelque chose qui leur appartient, qui est sur scène et qui est partagé de cette manière-là?
Ben, sur des petits détails, ne serait-ce que là, le long monologue, en fond, elle chante du Phil Collins, je trouve ça mais à mourir de rire, comme ça, a cappella, avec une voix... Il y a un tas de petits détails comme ça, puis dans la mise en scène, quand Paul Moulin m'a contacté pour me parler de l'adaptation, il m'a dit que ce sera une pièce radiophonique sur scène. Et moi, pour moi, c'était super abstrait, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est assez particulier, ils sont comme ça en rang derrière un pupitre, et ils font comme s'ils enregistraient une émission de radio.
Et une fiction, quoi, une ouais, dramatique.
Voilà, ouais. C'est ça. Ils font eux-mêmes la BO, les bruitages. Et ouais, l'angle est super intéressant. Je trouvais ça vraiment bien.
Zaï 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 Zaï, c'est l'histoire d'un auteur de BD qui se retrouve à la caisse du supermarché, qui a oublié la carte de fidélité et qui manifestement vit dans une société où ce n'est plus possible d'oublier la carte de fidélité. Il est obligé de fuir, il est en cavale, il est poursuivi par la police, les médias font des sujets à son sujet, ils interrogent les voisins, etc. etc. Et puis il est, oui voilà, en cavale où il va rencontrer des gens, bref, on ne dévoile pas. En dehors du trait extrêmement drôle, franchement, vraiment, on rit à chacune des pages, que ça vous plaise ou non, Fab Caro. Il y a vraiment quelque chose qui parle de notre temps, qui parle de notre monde. Vous l'écrivez en pleine période d'état d'urgence, de sécurité à tout va. Est-ce que là, peut-être en tant qu'auteur et en tant que citoyen, c'est votre manière de vivre l'époque que d'en faire des blagues?
Ouais. Là, pour le coup, je crois que c'est la première fois que je voulais faire... D'habitude, je me réfugie dans le non-sens ou dans l'absurde pour fuir la réalité. Je trouve que c'est assez pesant. Donc moi, c'est vrai que le non-sens et l'absurde, c'est une espèce de bulle dans laquelle je me réfugie dès le matin. J'aimerais pas être dessinateur de presse, les gens qui se plongent dans le journal le matin pour rendre compte de tout ça. Mais là, pour le coup, Zaï Zaï, j'avais envie de... Alors, d'une première lecture très burlesque, si possible, un petit peu drôle, mais une seconde lecture plus politique, entre guillemets, avec mon regard à moi.
Ah, c'est clairement politique, ouais. Y compris par exemple sur le traitement médiatique des faits divers, mm-hmm. sur la manière dont le discours est confisquées aux gens. Il y a des bulles où on tend un micro à quelqu'un, je ne sais plus si c'est un voisin à qui on demande « Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous trouvez que l'ambiance est angoissante ?»« Oui, ça me fait peur. Oui, l'ambiance est angoissante. » Enfin, on sent que votre regard là-dessus, Fab Caro, il est extrêmement critique.
Oui, je voulais parler un petit peu de tout ça, de l'état sécuritaire, des médias, et puis cette histoire de carte aussi, la carte du magasin en première lecture, c'était une espèce de critique de la société de consommation. Mais pour moi, en deuxième lecture, c'était les papiers d'identité, avec le fuyard qui est obligé de fuir parce qu'il n'a pas ses papiers d'identité. Et avec cette image de l'auteur qui représente l'étranger au sens large. Et alors, ça, en le faisant, je me disais, bon, peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être que des lecteurs ne le verront pas, mais moi j'avais envie de... Pour moi, c'était en filigrane. Dans toute cette histoire, c'était la fuite de l'étranger qui n'a pas ses papiers. Donc, bon, vu comme ça, c'est un petit peu moins rigolo, mais c'était une lecture en filigrane, en tout cas.
Et de l'étranger qui doit absolument rendre des comptes à la société s'il veut pouvoir y circuler librement, lui consommer, et continuer d'exister dans le collectif. On sent bien que c'est aussi une forme de réclamation, de pouvoir continuer d'être un petit peu à côté, quoi, d'être auteur de bande dessinée. En tout cas, c'est comme ça que vous l'écrivez, Fab Caro. C'est le petit à côté auquel vous tenez énormément.
Oui, essayez de pas forcément rentrer dans les clous. Essayez de pouvoir continuer à traverser la vie sur des chemins de traverse, comme ça, sans forcément... un petit peu à côté.
Et c'est menacé. C'est plus difficile à tenir, en ce moment.
Je sais pas si c'est en ce moment, mais ça, je crois que ça a toujours été un petit peu ça. Il y a des choses qui sont des fonctions qu'on a plus de mal à vivre, qu'on a plus de mal à assumer, parce que justement tout est fait pour nous faire rentrer dans une espèce de norme, et que si on s'en écarte un petit peu, ben on est vite rappelé à l'ordre.
Et on est menacé par des séances de karaoké.
Voilà, ça c'est terrible.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La dernière parution, c'est Moins qu'hier, plus que demain. C'est publié aux éditions Glénat. Il y a aussi Zéropédia aux éditions d'Argo, dont on n'a pas du tout parlé, mais libre à chacun d'aller voir. Zaï, 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 ça c'était paru chez Six Pieds Sous Terre. J'ai parlé aussi de Et si l'amour c'était d'aimer. Enfin, c'était aimer, on mettra tout ça sur le site internet.
Parfait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère.
Au son ce soir, c'était Pierrick Charles pour la dernière de la saison. Olivier Guérin à la réalisation, un très grand merci à lui. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h. Bonne fin de soirée.
La beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, affières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout.
aggrave la faiblesse des hommes. Elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe